Hypocrisie, qu'on peut dire aussi. Alors, ça attire la laideur. On a l'impression qu'on fait des casiers. Et puis alors, aussi, j'ai bien remarqué que ça résonne. Quand on ferme la porte des toilettes, tout le bâtiment, il est au courant. Ça vieillit mal aussi. Moi, j'ai vu au Sénégal, eh bien, des blocs de béton qui protégeaient la ville. Des blocos, eh bien, les blocos, ils s'effritent. Au bout d'un siècle, même plus d'un siècle, c'est pas terrible. On voit la ferraille qui ressort, qui rouille. Et puis on s'aperçoit aussi que les cathédrales qui ont été faites, les cathédrales modernes, qui sont faites en béton, eh bien, ça vieillit mal. Puis alors, il y a un autre aspect qui me plaît pas du tout, qui nous plaît pas du tout d'ailleurs, c'est que, eh bien, notre société industrielle, elle fabrique des déchets. Il faut bien les écouler. Alors, soit qu'on les jette à la mer, soit qu'on fait des trous dans la terre, dans les carrières, ou alors on les met dans les engrais, et comme ça on n'est pas au courant, les paysans ne sont pas au courant qu'ils épandent dans leur terre des métaux toxiques, les plantes appellent les avalent, les pompes, ou alors en mer c'est des poissons, et voilà, les déchets on les retrouve donc dans la cimenterie ou l'asphalte aussi, c'est-à-dire on roule dessus avec nos voitures. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Brigitte, qui serait plus vivant, qui serait plus agréable finalement? Tu as aussi des expériences que tu connais, tu peux nous en parler, puis tu en as vu aussi à l'extérieur, à l'extérieur de la France.
C'est bien vrai que devant cette laideur, moi qui suis amoureuse en fait de la beauté des maisons aussi, ce parpaing et ce béton de l'industrialisation massive depuis la guerre, c'est vrai, c'est pratique, c'est pas cher et c'est indestructible, mais c'est vraiment laid. Alors on peut faire mieux. Et j'ai des enfants, voilà, qui ont compris les choses, qui ont compris la beauté et qui aiment la nature. Et qui se sont faits eux-mêmes. Ils ont construit avec l'aide de copains, avec l'aide d'amis aussi, et puis étant un peu du métier, leur maison en bois et en paille. Bon, ça a pris quelque temps, c'est sûr. Mais c'est vraiment très agréable, très chouette. Déjà, on y vit bien. C'est détendant parce que le bois vit. Donc, c'est une maison aussi où ils ont fait en paille. Ils ont recouvert donc cette paille après de pisé. Donc tout est naturel, tout est vivant, tout est agréable, vraiment très agréable à vivre parce qu'une certaine syntonie s'échappe, il n'y a pas de bruit, il y a une chaleur très agréable qui est facile à contrôler. L'hiver, bah, n'est pas rude dans ces maisons-là et l'été n'est pas trop chaud. Donc j'invite à aller visiter des maisons qui sont maintenant nouvelles, bien adaptées, pratiques, modernes, mais qui ont utilisé des matériaux d'autrefois. D'autrefois et qui existent toujours, parce que c'est tout simplement le bois, c'est tout simplement de la paille. Il faut savoir, bon, retrouver comment nos anciens faisaient ça naturellement.
Donc, tu es en train de nous dire aussi, c'est bien isolé, contrairement au béton. Le béton, bien, c'est un très bon conducteur. Conducteur de chaleur. Donc, qui dit conducteur, eh bien, un conducteur soit de chaleur ou soit du froid. Et là, tu viens de nous dire que la maison est très isolée et puis elle résonne pas non plus, comme on a dit tout à l'heure.
Oui, c'est vraiment de vivre dans des maisons en bois, en terre, où il y a de la pierre et même du chaume ou du chanvre. C'est vraiment un grand plaisir parce que la santé s'y retrouve. On retrouve l'apaisement, l'équilibre du corps, l'harmonie. Hein, c'est un havre de paix. Tout le monde y retrouve le bonheur, en fait, paisible et naturel. C'est vraiment un charme.
Tu ressens bien la différence entre un bâtiment moderne et puis celui que tu viens de nous décrire.
Dans le bâtiment moderne, il y a des matériaux avec du béton, et on appelle ça le béton armé, qui utilise le fer, l'acier. Donc c'est très pratique, ça ne coûte pas cher, mais ça n'apporte vraiment pas grand-chose. C'est un matériau qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de poésie, qui respire l'ennui. Pourquoi il y a tant de personnes malades quand elles restent chez elles? Ça ne les arrange pas. Elles sont vraiment à l'étroit, je veux dire, de la nature. Hein, il n'y a rien, c'est un matériau de l'ombre, c'est un matériau froid. Donc on a avantage, c'est un bunker, voilà, comme disait Jean-Paul, on fait des cases comme au Japon pour que les gens puissent travailler dans des tiroirs, dans des cages à poules, tout simplement. Donc à nous de faire revivre l'habitat naturel avec de la terre, de la pierre, du chaume, hein, la lauze, les tuiles d'autrefois, les ardoises d'autrefois, mais pas du béton. Hein. Revenir à la façon de construire une belle architecture, hein, qui est traditionnel et qui utilisait des bons matériaux. Voilà.
Parce que l'architecture d'aujourd'hui, elle est uniforme. Hein. Qu'on visite une ville en France, en Italie, en Afrique, en Asie, en Amérique, toutes les villes se ressemblent aujourd'hui. Hein.
Le Corbusier, par exemple, hein, il a beaucoup construit, mais c'est un adepte du béton, de la ligne droite. Il déteste les courbes. Alors qu'en fait, on aime bien, au contraire, construire qu'il n'y ait pas d'angle. Hein, maintenant, on parle de yourte, par exemple. Il y a des maisons que l'on peut voir, des maisons circulaires qui vont pouvoir chercher les bienfaits du soleil. Des maisons troglodytes aussi, des maisons dans les arbres. Donc là, il y a beaucoup plus de poésie, plus d'âme. La personne se sentira nettement mieux. Il n'y aura pas de déprime comme on peut voir... Sans arrêt ou de suicide, parce que on n'est pas bien dans son habitat.
Oui, tu es en train de nous dire que l'habitat joue sur la santé.
Ah, c'est un point capital, parce qu'on passe beaucoup d'heures dans son habitat. On vit dans son habitat. On a à la fois la famille, on a à la fois donc la santé va se développer, et puis on passe beaucoup d'heures à dormir. Autant dormir dans un environnement qui soit positif, si on peut dire, c'est-à-dire qui apporte vraiment le repos bien mérité, hein, et relaxant, et non pas froid, sec, qui est pesant.
Alors tu peux nous dire, là, parce que, évidemment, moi j'ai la chance de vivre dans une maison de pierre, qui ne résonne pas. Hein, quand on ferme une porte chez nous, personne n'est au courant. Mais quand on habite quand même dans ces maisons-là, on ne peut pas faire autrement, qu'est-ce que tu peux proposer comme amélioration ?
Comme je disais, utiliser tous les matériaux qui sont bien pratiques, bien vivants, qui respirent en fait la nature. Donc avoir affaire à des... Maintenant, il y a des personnes qui se sont lancées justement dans la maison vivante. Dans les maisons, on fait maintenant même des villages écologiques qui utilisent des bons bois. Il faut aussi savoir choisir le bois qui est important pour faire le bâti, donc, puis savoir faire aussi les caves. On ne fait plus de caves, mais c'est important de faire des caves parce que ça permet justement le sous-sol d'assainir la maison qui va respirer davantage. Donc je souhaite vraiment qu'on revienne à l'utilisation de matériaux que nous offre la nature, comme la terre, la pierre, comme tu disais, le bois, le chaume, le chanvre, l'ardoise, la terre cuite, le pisé. Et ça donne un charme énorme. Hein, et les bottes de paille aussi. Bien sûr, il faut savoir choisir sa paille et puis la traiter en fonction pour qu'il n'y ait pas de problématiques. Et recouvert de pisé, ça ne, il n'y aura pas l'incendie comme beaucoup évoquent aussi, mais la maison des trois petits cochons.
Alors moi, je pense aussi à mettre de qui colle au mur là
des pisés,
voilà, puis des murs végétalisés aussi. Hein, ça, j'en ai vu aussi en Israël, hein, ou au Liban, hein, des murs végétalisés. On peut mettre de la vigne vierge. On peut aussi fleurir le bas de notre balcon, aussi, hein, le bord de notre fenêtre, pour donner un peu plus d'âme. Et il y a une autre chose aussi qu'on ne parle pas, c'est le radon. Le radon aussi, c'est un gaz qui est produit naturellement, et dans ces maisons-là, il est coincé, il reste dedans. Tandis que dans les vieilles maisons, il arrive à s'échapper. Il s'échappe par la cheminée, par les murs qui respirent. Et le radon, ça donne des conséquences sur les poumons, hein, les cancers du poumon. Tout ça, ça joue. Hein. On n'y pense pas assez que la maison, c'est une question de santé. Alors, merci docteur Brigitte, merci à toute l'équipe de la radio, et puis alors, à bientôt, au revoir.
Médecine de grand-mère, une émission pour une santé saine et naturelle. Par et avec Jean-Paul Hardy, maraîcher et praticien en médecine naturelle.
N'oubliez pas de toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de santé compétent lorsque vous avez besoin de renseignements et de conseils de nature médicale.
Les discrets présentent. Curieuse expression.
C'est vraiment des complications.
Il y a des difficultés les unes après les autres. À quoi à bannir, hein?
Oui, mais il faut...
Oui,
ça
se dit tout seul, quoi. C'est la croix.
Oui.
Mais quelque chose de trouvé, quoi. C'est...
Hein? Et bien, la croix,
une expression. La croix, je trouve que ça amplifie tout ce qu'on peut savoir. Et bien, la bannière. La bannière, ça me... Et la bannière, la croix et la bannière, c'est pas toujours la bannière. C'est pas toujours la bannière, mais il faut mettre la croix avant la bannière, beaucoup.
C'est les difficultés, c'est quelque chose de dur à réaliser.
Ah ben ça peut réussir comme ça peut réussir. Mais bien des difficultés pour faire quelque chose, ça n'empêche pas de réussir. Alors là, on a du mérite, si on a réussi. Hein.
Ah mais oui, mais pas la musique. Ah ben, la couture, travailler, plus que le pain de croix, le pain de tige, les broderies des couturières, brodeuses. Oui, j'aimais beaucoup. Non, quand vous avez la main, c'est pas difficile, mais il faut s'y tenir. Alors moi, j'ai continué tant que j'ai pu, mais bon, il y a eu un moment où il fallait choisir entre le travail et la passion. Passion de coudre, de broder, bien ou mal, on a essayé de tenir. J'aurais pu sûrement faire davantage, mais il me fallait quand même plus de possibilités, de temps.
Radioactive. Radioactive. La Touraine a trouvé sa radio. Radioactive.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you take it out of here and play our video games. In your favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the best, destined for a big guess. Put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Are you by your life, but bad boys on me? Is that true? It's better than I ever knew. This is what the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pulling white dots, video game. She hold me in her big arms, drinking I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends falling in that old pool. This is my idea of fun, playing video game. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time.
Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Ask you why you like the bad boys only. Is that true? It's better than I ever even knew. This is why the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you too. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, do I tell you all the time? Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Ask you why you like the bad boys only. Is that true? Baby, now you too.
Et maintenant, il est l'heure de retrouver Jean-Michel et son invité pour une nouvelle chronique Addicto sur Radioactive. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Marlène et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Jean-Michel.
Dominique, tu es un habitué sur notre antenne. En effet, tu as déjà enregistré différentes chroniques sur les addictions. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces chroniques sur le site internet www.lasantedelafamille.fr. Dominique, aujourd'hui, tu es venu nous parler du mois sans tabac. Que pourrais-tu nous dire sur cette action ?
Oui, Jean-Michel, le mois sans tabac est une initiative qui se déroule chaque mois de novembre. Créée en 2016 par Santé publique France, elle a pour objectif d'aider les fumeurs à entamer un sevrage tabagique. Les personnes qui s'inscrivent dans cette démarche se sentent soutenues et accompagnées dans leur parcours. De nombreux outils sont mis à leur disposition, comme le kit anti-tabac, les groupes d'échange sur les réseaux sociaux, ainsi que le soutien des associations d'entraide. Grâce au mois sans tabac, les personnes souhaitent arrêter de fumer ne sont plus seules. Elles bénéficient de cette dynamique collective pour renforcer leur motivation. À titre d'exemple, en 2021, 110 000 personnes ont participé à cette initiative.
Quelle est la période la plus dure à l'arrêt du tabac ?
La première semaine est souvent la plus difficile, mais n'oublions pas qu'il existe des substituts, comme les gommes à mâcher ou les patchs, pour les aider à gérer le manque. L'activité physique peut également jouer un rôle important en contribuant à évacuer le stress lié à l'arrêt du tabac.
Pourquoi est-ce si dur d'arrêter de fumer, Dominique ?
La dépendance au tabac est à la fois physique, comportementale et psychologique. Si la dépendance physique disparaît durant la première semaine, la dépendance comportementale et psychologique peut, quant à elle, perdurer plus longtemps, voire parfois même plusieurs mois.
Quels sont les bénéfices à l'arrêt du tabac ?
Après 24 heures sans tabac, le monoxyde de carbone est complètement éliminé de votre corps. De jour en jour, la fréquence cardiaque redevient normale. Votre capacité pulmonaire s'améliore. Votre voix s'améliore et devient moins rauque. Vous retrouvez votre odorat et le goût des aliments. En résumé, au fil des jours sans tabac, votre santé s'améliore et vous vous sentez de plus en plus plein d'énergie. Un autre aspect non négligeable est l'aspect financier. Fumer coûte cher et l'arrêt du tabac permet de réaliser des économies significatives.
Dominique, quelles conclusions pouvons-nous tirer de l'action « Mois sans tabac » ?
Le mois sans tabac offre à chaque fumeur l'opportunité de s'engager dans une démarche de sevrage, avec un accompagnement personnalisé et un suivi au jour le jour. Cependant, il est important de souligner que si l'arrêt du tabac n'est pas atteint en novembre, tous les mois de l'année sont propices pour arrêter de fumer. Chacun choisira le moment qui lui convient. Un accompagnement adapté est disponible tout au long de l'année, afin de vous aider à retrouver un bien-être libéré du tabac. Les associations d'entraide, comme par exemple la Santé de la Famille, accompagnent les personnes qui désirent arrêter de fumer. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous trouverez nos contacts sur www.lasantedelafamille.fr.
Merci à Vincent qui était à la technique. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur la page Facebook de radioactivefm.fr et sur le site Santé de la Famille ainsi que sur la page Facebook. Au revoir.
Au revoir.
La Touraine dans la radio.
La Touraine. Radioactive. Radioactive.
Professionnel, vous êtes submergé par les tâches administratives, pré-comptables, informatiques. AH Assistance vous accompagne dans toutes vos démarches. AH Assistance, son travail est d'alléger le vôtre. 06 36 06 90 25.
Approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers, et des mots jetés pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulé. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités, et des petits mots pour les béguins, des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Radio, Radio Active.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau mag sur Radio Active. Alors pour commencer, je m'excuse pour cette voix enrayée dont je suis victime ces quelques jours passés. À l'heure des festivités autour du vin nouveau et d'une météo maussade qui pourrait donner envie d'un vin chaud réconfortant, nous allons justement aujourd'hui parler, vous l'aurez compris, d'un des grands arguments d'attractivité de notre région, le vin. Et justement, pour en parler, j'accueille aujourd'hui Julie Joyer. Alors Julie, vous la connaissez déjà sur notre antenne, elle est organisatrice d'événements autour du vin pour Qui l'eût cru. Elle est chargée de communication pour Impact 37. Elle intervient également au lycée viticole à Amboise, multicasquette qu'a Julie. Bonjour.
Bonjour.
Et puis à ses côtés, Alexandre Jiquel, vigneron installé à Noisé et qui sera présent sur un des événements dont on va parler, ou plus exactement dont Julie va nous présenter les tenants et aboutissants. Alors justement, deux événements, 19e édition des Vins du Coin, samedi 30 novembre à Blois, et la 15e du Salon Beautiful à l'Hôtel de Ville de Tours, une édition spéciale au fil de la Loire. Alors on a hâte de savoir tout ce qui va se passer, peut-être qu'on commence par les Vins du Coin.
En effet, je peux dire un petit mot sur les Vins du Coin. Alors les Vins du Coin, c'est une association de vignerons et vigneronnes qui existe depuis 20 ans, qui fêtera sa 20e édition et ses 20 ans de salon l'année prochaine. Bon, il y a un petit loupé avec le Covid, comme on s'en doute. Mais donc c'est une association qui a été créée en 2004 par un groupe de producteurs et productrices qui se retrouvaient dans une charte commune. Donc dans la charte, il y a le fait de produire des vins bio, donc avec des raisins issus de l'agriculture biologique et des pratiques qui sont raccord en cave. Mais aussi des vendanges à la main, pas de vendanges à la machine, et une dose de soufre limitée, donc à 40 mg par litre. Donc là, ça devient un peu technique. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des vins vivants, des vins naturels. Et donc ça a 20 ans aujourd'hui. Et donc l'événement a lieu en effet samedi 30 novembre à Blois. Ce sont plutôt des domaines qui sont installés entre le Loir et le Cher. En fait, on a aussi des domaines qui sont limitrophes, qui sont côté Sarthe, qui sont côté Indre-et-Loire, mais majoritairement dans le Loir-et-Cher. Et donc, on a un peu l'impression de partager un moment avec une bande de copains et de copines. Quand on va au Vin du Coin, il y a toujours une ambiance assez chaleureuse. Et c'est toujours un rendez-vous qu'on a plutôt, en général, fin novembre, début décembre. Et voilà, c'est l'occasion de discuter avec eux aussi des vendanges qui sont récentes et de déguster 3 cuvées par domaine. Donc il y aura quand même pas mal de choses à découvrir. Et à chaque fois, les Vins du Coin invitent aussi ce qu'ils appellent des co-exposants. Mmh. Donc ce sont des artistes et artisans locaux qui viennent proposer leur spécialité. Donc il y aura une spécialiste de la photographie paysanne, il y aura un coutelier, un linograveur aussi de Blois, et puis des choses à manger. Donc il y aura du fromage de la ferme de la Grue, fromage de vache.
C'est la base, le fromage avec le vin.
C'est la base. Il y aura des huîtres aussi, il y aura de la restauration proposée par l'auberge des Fortes Têtes, qui est installée aussi dans le Loir-et-Cher. Il y aura des bières avec la brasserie de la Pigeonnelle, il y aura des jus de poire, de pommes par la Pomme Originelle. Donc il y aura vraiment plein de produits locaux de qualité, en plus des vins bio que vous pourrez découvrir et acheter sur place. Donc c'est ça le principe dégustation et vente.
Et sur place, c'est où ?
Alors sur place, c'est donc à Blois, à la Halle aux Grains.
C'est un lieu qui s'y prête super bien, en plus, c'est magnifique cet endroit.
Et ben, c'était Baie des Boums le week-end passé, et c'est vraiment un lieu magnifique pour des événements, parce que c'est très très lumineux. Voilà, il y a plein de fenêtres, c'est une ancienne halle Halle aux Grains qui est en plein cœur de Blois, c'est à une petite dizaine de minutes à pied de la gare, c'est vraiment en plein cœur de la ville. Donc le lieu est assez incroyable, et j'ai pris beaucoup de plaisir l'année dernière à prendre en photo les différents exposants et exposantes. On peut retrouver ces photos sur les réseaux sociaux des Vins du Coin, où vraiment je trouve que la lumière donnait vraiment un petit éclat particulier au salon 2023, et puis qu'on va retrouver là en 2024 pour donc cette deuxième édition dans ce lieu. Et avant, on était au château, on a fait quelques éditions au château de Blois aussi.
Ah, c'est vrai, vous vous promenez dans des lieux plutôt sympas, Julie.
Eh ben oui, en fait, c'est vrai que ça aussi, c'est une petite touche des Vins du Coin. Alors, c'est arrivé qu'on soit dans des salles un peu salles municipales, un peu moins glamour, mais la plupart du temps, on réussit à être dans des lieux originaux et puis qui sont raccords aussi avec un bel écrin, en fait. C'est raccord avec ce qu'on propose.
C'est un salon qui gagne en notoriété aussi, donc et on oui, vit depuis tout ce temps.
C'est ça. Après 20 ans d'association, et cette forme d'association, elle leur tient vraiment à cœur. Ils espèrent aussi, en fait, ils ont aussi une espèce de petite vie tout au long de l'année, des échanges, des conseils entre eux. Et ils espèrent aussi justement développer cette partie, le fait qu'il n'y ait pas qu'un seul rendez-vous avec le grand public dans l'année, parce que la dimension de solidarité, elle existe déjà, mais le fait de proposer des actions où les gens du coin peuvent aussi venir discuter avec eux, il y a des portes ouvertes, bien sûr, mais... voilà, il y a cette envie des Vins du Coin de créer d'autres rendez-vous avec le label Vins du Coin.
Donc ce samedi 30 novembre, je prends ma voiture, je vais jusqu'à Blois. Comment ça se passe quand j'arrive ? Il y a un tarif à l'entrée ?
En effet, alors on peut se garer à proximité de la Lograin. Il y a un parking juste devant. Il y a un marché le samedi matin, donc c'est bien de se garer un peu plus loin. Donc vous arrivez, vous payez 5 euros à l'entrée. Et contre ces 5 euros, on vous donne un verre qui va vous permettre d'accéder à toutes les dégustations. Donc il y a 26 domaines, si on calculait 26 domaines et 3 vins par domaine.
Alors c'est peut-être le moment de placer le « à consommer avec modération » bien évidemment.
Alors tout à fait, en sachant qu'il s'agit d'un salon de dégustation, donc l'idée ce n'est pas de boire à outrance, mais bien de déguster, c'est pour ça qu'il y a des crachoirs sur les stands, mais en effet toujours avec modération, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un bar à vieux vin, au Vin du Coin, c'est une petite tradition, on en a parlé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des Vins du Coin, c'est Philippe Muheim qui s'occupe de ce bar à vieux vin. On a souvent ce cliché sur les vins naturels, sur le fait qu'ils ne se conservent pas.
Ah oui.
Et là, la proposition a été faite aux adhérents et adhérentes de l'association d'apporter des vins qui ont au minimum 8 ans, donc qui sont du millésime 2016 ou encore antérieurs. Et là, en fait, donc il tiendra ce bar où on paye 2 euros et en échange de ces 2 euros, soit on goûte 3 cuvées qui ont plus de 8 ans, soit on nous sert un petit verre. Donc c'est là que c'est à consommer avec modération.
Voilà. Fallait quand même le placer, on est d'accord.
Tout à fait, tout à fait.
Mais c'est intéressant, on demandera à Alexandre tout à l'heure qui doit avoir l'habitude des salons et autres moments de dégustation, voir si tout le monde comprend bien cette idée de « je goûte » ou si on a plutôt envie de simplement profiter parfois. donc on rappelle que ce salon-là, c'est les Vins du Coin, il aura lieu à Blois ce samedi 30 novembre de 10h à 18h à la Halle au Grain. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un autre événement ce week-end, qui est le salon Beautiful, et qui se déroulera à l'Hôtel de Ville de Tours. Je propose qu'on marque une pause en musique et puis qu'on en vienne juste après à ce deuxième événement. La pause musicale que nous propose Julie aujourd'hui, c'est Beyrouth. Alors le titre ?
Postcard from Italy.
Ok, ça faisait partie de sa playlist pour tout vous dire. Alors on écoute tout de suite.
The times we have. Oh,
De retour sur l'antenne de Radioactive après une pause musicale proposée par Julie Joyer. Julie qui est organisatrice d'événements autour du vin pour qui l'eût cru, qui a d'autres multiples casquettes qu'on a pu évoquer en début d'émission. Et Julie nous a parlé dans une première partie d'émission de la 19e édition des Vins du Coin. C'est samedi, ce samedi 30 novembre, de 10h à 18h, c'est à Blois, à la Halle aux Grains. Donc n'hésitez pas à aller découvrir les vignerons et vigneronnes qui sont installés entre le Loir et le Cher. Et puis, elle est venue également aujourd'hui avec Alexandre Jiquel, qui est vigneron installé à Noisy et qui lui sera présent, mais sur un autre événement. Alors Julie, quel est cet autre événement ?
Alors on parle du salon Beautiful, qui fête ses 15 ans cette année. Et le salon Beautiful, c'est le salon des vins bio tourangeau, normalement. Mais pour ses 15 ans, on a invité aussi d'autres domaines viticoles bio, qu'on a appelé en fait du coup l'édition spéciale au fil de la Loire. Donc vous trouverez à la fois des vins d'Indre-et-Loire, mais aussi des vins du Muscadet, d'Anjou et du Loir-et-Cher. Donc là, le salon a lieu donc en parallèle des vins du coin pour le samedi, donc entre 14h et 19h, et le dimanche 1er décembre entre 10h et 18h. Donc le principe est un peu similaire, donc vous vous présentez, vous achetez un verre 6 euros, donc 1 euro de plus, je sais, donc 6 euros, et avec ce verre, vous allez pouvoir aller déguster au fil des 27 stands présents. Il y aura aussi un 28e stand avec les BTS du lycée viticole d'Amboise qui tiennent un stand commun pour financer leur voyage d'études. Donc n'hésitez pas aussi à les déguster auprès d'eux. Donc voilà, donc c'est le même principe. On peut déguster sur place. On fait ses achats au fil du salon. On remplit un bon de commande. Et puis à la fin, avec une équipe, on prépare les commandes. Voilà, comme ça vous n'êtes pas chargé pour déguster. On a aussi deux ateliers de dégustation pendant le week-end. Donc le samedi à 16h, on reçoit un géographe, donc Julien Hadjadj Jadot, qui propose une dégustation autour des niveaux de sucre dans le vin, donc demi-sec, moelleux, etc. Ouais. C'est un atelier qui est gratuit à partir du moment où on achète son entrée au salon. Et le dimanche à 16h, un quiz gourmand avec un historien qui fait gagner un petit jeu qu'il a créé sur la gastronomie tourangelle. Donc voilà, donc les deux ateliers gratuits. Et puis, donc tous les stands, il y a plein d'appellations. Il y a Bourgueil, Chinon, Mont-Louis. On a évoqué déjà les départements voisins, mais donc chez nous, il y a aussi donc Saint-Nicolas de Bourgueil, Touraine, Touraine-Azel-Rideau et Vouvray. Et c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui Alexandre Jiquel sur ce plateau. Donc Alexandre, merci d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots où tu es installé ?
Ouais, moi je suis installé à Noisy, donc c'est sur l'appellation Vouvray. J'ai un petit domaine de 4 hectares et demi. Donc comme je suis sur l'appellation Vouvray, je fais majoritairement du Chenin. Après, j'ai d'autres petites parcelles de Gamay et de Caux qui sont en dehors de l'appellation. Mais voilà, ouais, je fais principalement du Vouvray. C'est en blanc tranquille et puis en pétillant.
Donc ce n'est pas la première fois que tu participes à Beautiful. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de revenir ?
Ouais, je l'avais déjà fait en 2019. Bon, je l'avais pas refait depuis, mais je l'avais fait en 2019. Ça s'était super bien passé. On avait eu beaucoup, beaucoup de monde. C'était très sympa. Et puis, c'est pour moi le salon local de Touraine. Donc, je trouve que c'est sympa d'y être. Et puis, le cadre est dans le hall de l'hôtel de ville à Tours. Et le cadre est magnifique. Voilà, donc j'avais pas pu le refaire depuis, mais je suis content de le refaire cette année.
C'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé du cadre. Et en effet, on est
magnifique
dans la mairie de Tours, donc vraiment sur la place Jean Jaurès, la double porte reste ouverte tout le week-end. Et en effet, voilà, le cadre est assez incroyable lui aussi. Qu'est-ce que tu vas nous faire déguster pendant les deux jours ?
Eh ben moi, je ferai déguster que du Vouvray, donc que du Chenin. Je vais amener deux cuvées de tranquille, une sèche et une cuvée demi-sec, et puis un Vouvray pétillant.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un vin tranquille ?
Oui, un vin tranquille, c'est un vin qui est non effervescent.
Mm-hmm. Non, moi, j'en apprends tout le temps. J'en apprends tout le temps. Puis ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois que Julie vient sur l'antenne de Radioactive, elle parle toujours de vins bio ou de vins qui sont très épurés. Enfin, je connais pas très bien les termes. Hein. J'avoue que même si je suis les neunophiles sur Radioactive pour essayer de connaître un petit peu mieux les termes, on est toujours sur des produits de grande qualité.
Oui, alors justement, Alexandre, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un vin bio ?
Alors, un bio, c'est un vin qui répond au cahier des charges de l'agriculture biologique. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en dire, mais en gros, contrairement au vin conventionnel, on peut mettre beaucoup, beaucoup moins d'intrants dans le vin. Et notamment, on a une tolérance en soufre qui est bien inférieure. C'est l'une des majeures caractéristiques.
Est-ce que ça veut dire qu'on a moins mal à la tête le lendemain si on en boit un petit peu plus qu'il ne faudrait ?
Oui, c'est l'intérêt.
C'est intéressant. Et alors justement, tout à l'heure, je crois que Lilian, pendant la pause musicale, avait envie de poser une question.
Quel conseil donneriez-vous à un novice qui vient à sa première dégustation de vin ?
Je pense que déjà, la première des choses, c'est de cracher, de pas tout boire. Parce que c'est vrai que si on est 27 vignerons et qu'on boit tous les verres qu'on nous sert... on va en faire 3-4 et puis on va s'arrêter. Non, il faut absolument cracher, il faut prendre des petites quantités et les cracher. Et voilà, il faut prendre son temps, il faut goûter ce qui nous plaît, même des choses auxquelles on n'irait pas normalement. Il faut quand même essayer de les goûter parce que c'est l'occasion justement on a un panel de vignerons de plusieurs régions qui font plein de vins différents qu'on n'irait peut-être pas goûter en temps normal, mais là qu'ils sont là, c'est vraiment une super occasion d'y aller. Et donc goûter plein de choses qu'on ne connaît pas, il faut être curieux, quoi. C'est vraiment... l'intérêt de ces salons-là, de pouvoir être curieux et de tout goûter.
Ok, merci beaucoup.
Moi, je dirais aussi qu'il faut manger. Il faut bien, bien manger avant. Il faut manger aussi pendant le salon. Et en tout cas, oui, ça permet vraiment de faire la différence sur la perception. Ça permet de garder les idées claires, parce que même si on crache le vin, en fait, il reste toujours quelques gouttes. Et puis, à force, ça finit par monter parfois un peu à la tête. Donc, il faut vraiment manger et aussi boire de l'eau. Boire beaucoup, beaucoup d'eau, ça paraît un peu simple dit comme ça. Mais
oui.
Voilà, manger, boire de l'eau, c'est vraiment les deux conseils d'expérience que je peux partager.
Ouais, moi, je peux rajouter quelque chose. Comme c'est ouvert le samedi de 14h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h, ça peut être pas mal de venir aux heures d'ouverture. Il y a toujours moins de monde entre 10h et 11h et entre 14h et 16h qu'après, quand on arrive en fin de matinée ou fin de journée. Là, on a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder au stand et de discuter avec le vigneron. Donc plus on vient tôt, moins il y a de monde et plus c'est sympa de déguster à ces heures-là.
Et puis, il faut aussi se mettre à l'aise, parce que c'est vrai que moi, on m'a déjà posé la question, c'était des proches qui m'avaient demandé « Mais comment je dois m'habiller, en fait, pour venir au Salon des Vins ?» Parce qu'il y a encore cette image.
Ouais, mais complètement. Mais c'est aussi, je pense, lié au fait qu'il y a beaucoup de salons qui sont dans des châteaux, dans des domaines. Moi, la première fois que je suis allée, je crois, à un Salon des Vins, c'était à la Bourdaisière, à Montlouis. On est arrivé en freelance, un dimanche après-midi, avec des amis. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à cette époque-là. En tous les cas, on est tombé sur des gens qui étaient très bien habillés, Et je pense qu'effectivement, il y a ce côté... c'est des idées préconçues qui persistent encore.
Il y a cette image, en effet, toujours un peu élitiste du vin. La personne qui connaît le vin, c'est une personne qui a un savoir incroyable. Mais il faut... Enfin, voilà, j'essaie de contribuer à changer les idées sur ça, parce que si vous venez, vous allez voir autant au Vin du Coin qu'à Beautiful que les gens sont habillés comme vous et moi, de façon plus ou moins classique, plus ou moins en tenue de sport ou pas. En tout cas, c'est plutôt décontracté comme ambiance, donc il n'y a pas de tenue correcte exigée. D'ailleurs, sur Beautiful, on a l'habitude, en plus, de voir passer des mariages le samedi, en plein cœur du salon, parce que ça reste la mairie.
Ah ouais.
Donc, il y a vraiment tous les mariés, et puis les gens qui les accompagnent, c'est les personnes qui sont sans doute les mieux habillées du salon. Et puis voilà, en fait, il n'y a pas de jugement sur votre tenue, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, il faut venir, voilà, en effet, comme tu disais, Alexandre, avec de la curiosité et puis sans se mettre la pression.
Tu vois, tu peux laisser tomber le nœud pape, Lilian. Tu peux venir décontracter. Est-ce que c'est plus compliqué à produire un vin bio qu'un vin, je dirais, classique ?
Bah, oui, ça peut, parce qu'en bio, on a moins de garde-fous. Donc les vins peuvent dévier éventuellement plus facilement. Après, on a d'autres façons de travailler, justement, du fait qu'on mette moins d'intrants dans les vins. On ne sait pas lié à ça, c'est une autre façon de travailler. Mais bon, potentiellement, oui, ça pourrait être un peu plus dur à faire. Voilà, après, avec l'expérience, on arrive à quand même gérer les jus pour obtenir des vins qui restent droits.
Ouais, la grosse différence, c'est que tu peux, t'es plus dans la prévention quand t'es en viticulture biologique, alors qu'en viticulture conventionnelle, tu peux venir aussi traiter avec des produits pour complètement remachiner le tout.
D'accord. Parce que, après, en termes de tarifs, j'imagine qu'un vin bio est sans doute un petit peu plus cher qu'un vin classique, mais c'est toute la raison qui fait que. C'est tout le travail que ça demande en plus, la veille attentive que ça demande pour avoir un produit de grande qualité.
Ouais, enfin, y a déjà beaucoup plus de travail à la vigne, déjà parce qu'on travaille nos sols. Voilà, le travail du sol, c'est moins efficace qu'un désherbage, donc ça demande beaucoup plus de travail. Et puis après, on a d'autres obligations, on n'a pas le droit à certains produits pour traiter la vigne, donc on est souvent obligé de repasser plus souvent. Après, on a des fois des philosophies où on veut vraiment peaufiner nos vignes, et puis derrière, on fait souvent des récoltes manuelles, enfin voilà, plein de petites choses qui font que, au bout du bout, il se peut que les vins bio soient légèrement plus chers que les vins plus classiques. Mais ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Hein. Il y a des vins bio qui sont à des tarifs tout à fait abordables. C'est pas forcément excessivement cher.
Alors, est-ce que le vin bio est vraiment un vin pas classique?
Ouais.
Non,
ben,
c'est une façon
de différencier les choses. Oui, c'est un vin classique.
Et puis oui, moi je voulais ajouter sur le sujet du prix. En fait, c'est vrai que la gamme de prix, elle peut être un peu différente, mais il y a aussi des vins conventionnels qui sont plus chers. Il y a des vins bio qui sont pas très chers, alors qu'ils coûtent cher à produire. On peut en trouver à 7, 8, 9 euros la bouteille, à moins de 10 euros même chez des cavistes à Tours. N'hésitez pas à aller chez Pure Canon, à la cave du théâtre, chez Dejo Épicerie. En fait, on trouve aussi des vins bio à moins de 10 euros la bouteille. Et moi, je préfère aussi militer pour des vins qu'on boit peut-être un peu moins souvent. Enfin, boire moins, mais mieux et voilà, avec une meilleure qualité. Je pense que c'est plus intéressant.
Donc, j'imagine qu'à chaque fois qu'on parle de vin, on parle des mets qui vont avec. Et que sur ces deux salons, on va retrouver des idées aussi d'accompagnement pour des plats, pour des choses. Et vous-même, Alexandre, vous serez capable
de cuisiner.
De conseiller tous les visiteurs.
Ouais, c'est pas toujours évident. Moi, je trouve que personne accorde mieux un vin avec un plat que soi-même. On mange de ce qu'on aime, donc... Après, on aime bien accorder un vin avec l'idée qu'on a de notre plat et de l'accord qui va avec. Nous, on peut apporter quelques pistes. Après, c'est souvent plus un travail de sommellerie, d'accorder le plat et vin. Mais bon, nous, on connaît les vins, donc voilà. Et puis, on aime quand même bien manger, donc on peut donner quelques pistes sur les accords.
Puis les Vouvray, ça va avec plein de trucs aussi.
Ça se boit aussi sans manger. Hein,
c'est quoi, Julie, toi, ton... vin préféré? Je dis ça parce que souvent, on parlait d'idées préconçues tout à l'heure, mais souvent on dit que les femmes, c'est souvent le vin blanc un peu sucré. C'est pareil, c'est des images qu'on a, ça.
Alors ça, c'est complètement des clichés de genre aussi contre lesquels je lutte. Moi, alors si je devais dire mon vin préféré, c'est une question que j'avais posée quand j'intervenais au lycée viticole aux gens qui étaient en formation. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout objective. J'ai vécu plusieurs années dans le Vendômois. Mon vin préféré, ce serait un vin à partir du cépage Pinot de Nice. J'en ai goûté un incroyable ce week-end au salon Alter Vinea, qui était en 2024, du domaine du Mortier à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Il n'avait même pas été produit en Vendômois, mais le Pinot de Nice est un super cépage qui a vraiment des arômes de petits fruits rouges et autant des arômes et une sensation poivrée. C'était vraiment incroyable et ça m'a fait super plaisir de retrouver ces caractéristiques-là. Donc voilà, ce serait mon vin préféré.
Alexandre, il partage cette opinion de ce vin-là particulièrement, par exemple?
Ouais, j'aime beaucoup le Pinot de Nice. Alors nous à Vouvray, on est un peu, on fait pas beaucoup de ce cépage-là, mais c'est un superbe cépage, ouais, vraiment. Pour faire des pétillants même, ça marche très très bien. Des rouges, ça fait des super rouges. C'est vraiment un super cépage.
Et toi, Alexandre, ton vin préféré?
Le Chenin, bien sûr. Le Chenin, plutôt le Chenin tranquille, sec. Voilà, moi c'est ce que j'aime. Après, je bois pas que mon vin, mais j'aime bien. Voilà.
Eh bien, c'est dit.
Alors, moi, j'avais une petite question, parce que, bah, comme vous nous l'avez expliqué, ces deux salons, ils sont pour mettre à l'honneur le vin dans notre région. C'est quoi la spécificité de notre région dans le vin, et qu'est-ce qui la différencie des autres ?
Bonne question, ça. Merci.
Alors, longtemps, les vins de Loire ont eu la réputation d'être des petits vins. Moi, j'avoue que j'ai été élevée dans le nord de la France et il n'y avait que les vins du Rhône ou de Bordeaux qui comptaient. J'ai toujours entendu mon grand-père les dénigrer, les vins de Loire. Alors qu'en fait, grâce au réchauffement climatique aussi, en fait, ce ne sont plus des vins dans lesquels on met du sucre pour que la fermentation se déroule bien. Ce sont des vins aujourd'hui qui ont beaucoup de finesse et qui ont aussi de vrais caractères avec des cépages incroyables. Comme tu disais, Alexandre, le chenin, c'est vrai que c'est un cépage que le monde entier nous envie et qu'on trouve ailleurs aussi dans le monde, notamment en Afrique du Sud, par exemple. Donc il y a vraiment une variété aussi, une diversité au niveau des terroirs. Les vins de Loire, finalement, que ce soit de l'Auvergne, du centre-Loire, ici vers la Touraine, ou après quand on part en Anjou, dans le Muscadet, vous voyez, je vous ai fait descendre la Loire en une seule phrase. C'est vraiment plein de cépages différents vont avoir ce caractère de Loire, donc un peu changeant. Donc moi, je trouve qu'il y a à la fois de la finesse et de la force, en fait, dans les vins de Loire.
Ouais, on a des... Tout au long de la Loire, il y a des très grands terroirs, notamment grâce aux appellations. On a souvent une corrélation entre cépage et terroir qui est très affinée et qui donne, quand les vins sont bien travaillés, qui donne vraiment des vins d'une super élégance. Et c'est pas un vignoble, un sous-vignoble si on veut, c'est vraiment un super vignoble, très riche, très varié et puis vraiment très qualitatif avec tous les terroirs, les magnifiques terroirs qu'on a.
Merci pour vos réponses.
Ouais, puis il y a tout l'art d'en parler aussi, parce que c'est comme une belle toile quand on n'est pas artiste et qu'on l'observe, on ne sait pas poser les mots dessus, mais c'est vrai qu'en vous écoutant parler l'un et l'autre, on a, je ne sais pas toi Lilian, mais très envie de goûter un bon vin maintenant.
Ouais, complètement.
Est-ce qu'il y en a qui réparent les soucis de gorge ?
Ouais, les vins doux.
Ok, bon, je note.
Un petit liquoreux de Vouvray ou Mont-Louis fera l'affaire.
Bon, parfait. Donc on rappelle que la 19e édition des Vins du Coin, c'est samedi 30 novembre de 10h à 18h à Blois, et que le 15e salon Beautiful, c'est à l'hôtel de ville de Tours, ce sera une spéciale au fil de la Loire, et ça, ce sera à l'hôtel de ville de Tours, de 14h à 19h le samedi, et de 10h à 18h le dimanche. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces événements.
Merci.
Merci. Merci. On se retrouve peut-être bientôt, Julie, nous, pour un nouveau numéro, peut-être des nonophiles ou pour d'autres événements autour du vin, parce que c'est pas ça qui manque.
Exactement. Merci, Marlène.
C'est la fin de ce mag. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter le podcast de cette émission sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.